9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Nous allons parler du Bondi Blog aujourd'hui. Bonjour Latifa Oulkouir.
Bonjour.
Merci d'être ce dimanche matin à Beurre FM. Vous allez nous parler de ce livre, Le Bondi Blog. Jusqu'à quand cette interrogation? C'est un livre qui restitue 15 ans de reportage dans les quartiers. Ce livre vient de paraître aux éditions Fayard. Il est préfacé par notre ami Edoui Plenel, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Avant de parler de jusqu'à quand, rappelez qui vous êtes, Latifa Oulkouir. Vous êtes directrice de ce Bondi Blog. Le rédacteur en chef est Jalal Kalioui.
C'est ça.
C'est ça. C'est une équipe aussi, hein, vous nous en parlerez. Et vous, comment est née la rencontre avec le Bondi Blog? Personnellement, avant d'entrer dans l'histoire du Bondi Blog,
moi personnellement, je suis arrivée au Bondi Blog en 2013, début 2013. À l'époque, j'étais étudiante en droit et voilà, j'étais bénévole dans une association de Nanterre et il s'avère que c'était une association dont le responsable connaissait bien Ordina Billy qui était directeur à l'époque. Et dans cette association, on savait un peu, donc qui est l'association Ziva, on savait que j'avais envie d'être journaliste. On m'a dit, il y a le Bondi Blog et je connais la personne, donc si tu veux y aller, vas-y. Et voilà, et après je connaissais le Bondi Blog quand même d'avant, mais je n'osais pas tellement y aller. Enfin, en vrai, j'avais fait une demande de stage qui m'avait été refusée.
Il y avait trop de stagiaires peut-être?
Non, en fait, on n'en prend pas.
Vous prenez pas de stagiaires, d'accord.
Non,
vous nous expliquerez le fonctionnement du Bondi Blog.
Après, et donc voilà, en fait, je suis arrivée, enfin, j'ai écrit un premier article, j'en ai écrit un deuxième, avant même de mettre les pieds à la rédaction. Et puis, voilà, on m'a dit, les confs se déroulent le mardi à 19h, ce qui est toujours le cas. Et un jour, j'y suis allée, et ça m'a plu, et j'y suis restée.
Vous y êtes restée, et vous en êtes la directrice. Alors, l'histoire du Bondi Blog est singulière et courageuse. On va rappeler les révoltes en banlieue. Ensuite, mais avant un drame qui naît le 27 octobre 2005, Ziad Bena et Bouna Traoré sont deux jeunes qui sont morts dans un site EDF. Ils étaient poursuivis par la police. On verra 10 ans après que la relaxe a été faite aux policiers, ce qui a été quand même plus qu'un étonnement, une certaine injustice, diront les parents et diront celles et ceux qui sont attachés à cette responsabilité policière dans les violences policières aujourd'hui qu'on connaît. Le Bondi Blog, c'est une histoire singulière, je viens de le dire. Elle est singulière parce que elle est née de l'hebdo suisse et de son journaliste Serge Michel qui un jour a mis les pieds à Bondi. Racontez-nous.
C'est ça. En fait, Serge Michel a l'idée, un jour, lors d'une conférence de rédaction de l'hebdo, effectivement, en Suisse, de prendre un peu le contre-pied du traitement médiatique qui a réalisé des révoltes de 2005 à ce moment-là par les médias français, c'est-à-dire une couverture assez sensationnaliste qui se focus sur les voitures brûlées, etc. Et il se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il se passe dans un quartier, à l'intérieur d'un quartier? Quel est le quotidien, en fait, des habitants? Qu'est-ce qu'ils ont à dire, les plus jeunes, les plus âgés, etc.? Quelle est leur vie, finalement? Il va s'installer parce qu'il a une connaissance commune qui est dans le coin, donc tout à fait par hasard, et parce qu'en fait c'est pas très loin de Clichy, etc. Et donc il s'installe à Bondy et il se dit, tiens, on va commencer à raconter le quartier de l'intérieur.
Il raconte le quartier de l'intérieur avec les gens de l'intérieur aussi. C'est aussi ça qui fait l'histoire. Je vous rappelle que ces jeunes qui ont été tués, c'était à Clichy-sous-Bois, donc une proximité avec la ville de Bondy. La configuration, la topographie de la ville de Bondy, c'est une banlieue du 9-3, du 93, de ce territoire qui est la Seine-Saint-Denis, qu'on nomme souvent négativement, qui a produit aussi du positif. Et Dieu sait quel positif il y a et quelle créativité il y a malgré cette difficulté sociale que connaît ce territoire. Et ils vont s'installer pendant quelques mois, ces journalistes, et ils vont aller avec aussi les habitants du quartier pour créer des articles, au plus profond, au plus près des gens. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette configuration d'une forme de journalisme autrement. Et cette ville de Bondy, je commençais à la décrire, c'est une ville quand même qui est au milieu du 93 et qui partage en deux, il y a Bondy Nord et Bondy Sud.
C'est ça.
Donc une région pavillonnaire, une région grand ensemble.
Voilà, Bondy Sud correspond plus à le quartier pavillonnaire, près de la gare, etc., plus, on va dire, un petit peu plus aisé, tandis que Bondy Nord, effectivement, c'est des quartiers très populaires qui sont beaucoup plus excentrés, où on peut traverser le pont de Bondy pour y accéder.
Et puis des fois, il n'y a même plus de bus pour traverser le pont.
Ouais.
Donc ce qui met encore une relégation.
Exactement.
De ce,
physiquement, il y a vraiment une séparation entre ces deux espaces-là, avec le centre-ville qui vient au milieu. Donc oui, après c'est Bondy, effectivement, c'est une ville 15-20 minutes de la gare Saint-Lazare en RER et qui a plein de choses positives, comme vous avez dit, de parcours absolument admirables, personnes qui viennent de Bondy, et des difficultés aussi, mais comme, en fait, finalement, comme ça peut exister dans plein de villes en France, qu'ils soient des territoires urbains, périurbains ou ruraux, où on a des disparités sociales, etc. Le tout, c'est comment on raconte cela de la manière la plus honnête possible.
Alors justement, Bondy nous intéresse bien à Beurre FM parce que nous avons un lien très fort historiquement aussi dans le temps de la radio et dans le temps de Bondy, puisque on avait fait écho longtemps des initiatives de Bondy, qui était l'association SOS Ça Bouge, avec leur festival magnifique qui s'appelait Il y a de la banlieue dans l'air, avec tout ce que portait au-delà de l'aspect artistique, musical. C'était vraiment le quartier qui portait ce festival et qui portait toute la dynamique autour de cette création artistique, mais pas que, puisqu'il y avait une prise en charge par les habitants. C'était les parents qui faisaient les repas, c'était les jeunes, les 25 ans, on va dire, les 18-25 ans, qui prenaient les petits pour faire des activités. Il y avait toute une prise en charge des activités, et puis dans ce quartier, puisque c'était le quartier populaire, on va le dire comme ça, de Bondy. Je ne sais pas si c'est le nord ou le sud, du coup, des deux dans le...
C'est vrai qu'à l'époque, effectivement, comme dans plein de villes, ça a changé, la topographie de la ville a changé, c'est-à-dire ce qu'on avait, les banlieues qui étaient aujourd'hui, les rues aujourd'hui qui sont pavillonnaires, etc., abritaient à l'époque des usines, etc., avec des logements. Donc effectivement, ça a changé, mais comme ce qui s'est passé dans plein de villes avec la désindustrialisation. Donc voilà.
Dans ce livre, jusqu'à quand cette interrogation, on y reviendra longuement tout à l'heure, 15 ans de reportages dans les quartiers, donc vous restituez dans ce livre tout ce qui, depuis 2005 jusqu'à 2020, donc on est dans cette période encore plus difficile pour les raisons qu'on sait tous et toutes, le Covid, la paupérisation due à cette crise sanitaire, mais on s'aperçoit dans ces différents reportages qu'ils ont en commun le socle de, vous l'avez dit, d'informations que ne nous donnaient pas les médias autres, j'allais dire français, vous êtes un média français, mais les médias autres qui sont dans le sensationnel et qui sont on va parler des voitures qui brûlent plutôt que d'un jeune qui va sauver d'un incendie des gens, vous voyez, on est d'accord là-dessus. Mais en même temps, il est pas très intéressant de parler des trains qui arrivent à l'heure, vous parlez de ceux qui n'arrivent pas. Et ce qui n'arrive pas, pour pas parler des trains, mais remplacer train par justice, droit, travail, c'est surtout ça que vous nommez et que vous écrivez dans le Bondy Blog.
Oui, c'est ça, dans le Bondy Blog et dans cet ouvrage, c'est effectivement l'idée de se dire... Il y a plein de inégalités, etc., dont il faut parler, qui ont un impact sur la vie des gens, ou des politiques publiques, etc., dont on va avoir les grandes lignes dans les médias mainstream, on va dire, mais quel est leur impact sur le quotidien, en termes effectivement de d'emploi, d'insertion, d'école, d'éducation, etc. Et donc c'est tout ça qu'on raconte. Nous, l'idée, c'est pas de dire, c'est pas d'être angéliste en disant tout va bien. Et non, il se passe rien, et c'est pas vrai ce que vous dites. Il y a pas de trafic, il y a pas de voiture qui brûle, il y a pas de... Et en même temps, c'est de se dire, c'est pas vrai, c'est pas de nier cette réalité-là, mais c'est de dire qu'il y en a une autre. Et c'est d'essayer d'expliquer la réalité dans son intégralité. C'est de parler de violence, mais de dire en même temps que les racines de la violence, c'est souvent la pauvreté. Et donc de venir aux racines de ça et d'expliquer ça, de dézoomer un peu les focus qui peuvent être faits dans les médias traditionnels sur les quartiers, et qui se veulent un peu, encore une fois, sensationnalistes. Et on a toujours ce genre de reportage aujourd'hui, on va dire, on va dans une cité en Seine-Saint-Denis, on va titrer drogue, armes, délinquance,
islamisme.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc toute une ribambelle de mots extrêmement... fort et en fait compliqué, mais stigmatisant évidemment, et sans chercher ce qu'il y a, chercher à voir ce qu'il y a derrière, en termes de trajectoire humaine, en termes de décision politique, en termes aussi d'enquête parfois sociologique, qu'il est important de rappeler. Donc voilà, c'est nous, cette on essaie toujours d'être dans une, évidemment, comme beaucoup d'autres médias, mais dans une honnêteté intellectuelle. Quand on parle des quartiers, on n'est pas des porte-parole, on essaie juste de raconter les choses telles qu'elles sont.
Le livre a été préfacé par Edoui Plenel, que l'on connaît bien ici à Beurre FM et que je connais bien personnellement, qui est un ami, un journaliste et fondateur de, du site Mediapart, après qu'il ait été journaliste d'un grand quotidien du soir, vous le savez bien. Il dit dans sa préface l'extrême reconnaissance qu'il a du bon du blog par rapport à justement cette... vous avez ouvert les yeux aux médias. En tout cas, vous lui avez ouvert ses yeux à lui, puisqu'il le dit pour ne pas... Le tromper, c'est alors que le surgissement du Bondi Blog a sauvé l'honneur du métier. C'est grand ce qu'il dit là pour le Bondi Blog.
Oui, c'est grand et en fait c'est une recontextualisation de ce qui était à l'époque en 2005, donc il y a 15 ans, le traitement des quartiers populaires, c'est-à-dire que c'était quasiment inexistant. Et du coup, ce n'est pas évidemment le seul à le dire. D'autres journalistes effectivement pointent qu'à cette époque-là, les journalistes n'allaient pas au-delà du périphérique et ne racontaient pas cette réalité-là.
Alors, ils en avaient peur.
Je sais pas s'ils en avaient peur. Peut-être que il y a des questions aussi de formatage où on va toujours vers un peu les mêmes sujets, les mêmes choses, et puis qu'on se contente peut-être de ce qui est à l'encontre du métier de journaliste, mais souvent des préjugés qu'on a sur ces territoires-là. Et on se dit, c'est comme ça, donc qu'est-ce qui est d'intéressant à raconter, en fait, alors qu'il y a en fait 1000 choses à raconter. Donc c'est ça dont il faut se rappeler, en fait. C'est qu'en 2005, on ne parlait pas de quartier, on ne parlait pas de violence policière, on ne parlait pas de tout ça, en fait. Et faut remonter dans le temps pour voir des couvertures à l'occasion d'événements extrêmement importants et fondateurs comme la marche
Pour l'égalité contre le racisme
a été en 1983, avec effectivement des problèmes de violence policière à l'origine, etc., et quelque chose qui était un mouvement national. Et encore avant, quand on parlait d'histoire d'immigration et de syndicats qui se créaient, de travailleurs, etc. Mais on ne parlait pas, encore une fois, des histoires derrière. On parlait quand il y a quelque chose qui se passait pas très bien.
Et toujours à propos d'Edoui Plenel, j'ai le souvenir qu'il était venu à Beurre FM en 2005, puisqu'on avait évidemment traité ce drame de la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, pardon. Il était allé, il revenait du procès à Rennes, et où il avait expliqué justement toute cette médiatisation qui avait été faite, très sensationnelle encore. Je reviens toujours sur ce mot sensationnel, vous l'ajoutez aussi, parce que vous êtes loin de ça quand vous écrivez au Bondi Blog, hein, et on est quand même encore dans des médias aujourd'hui qui vont vers cette information tronquée et que vous dénoncez. On va vous retrouver dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche et nous parlons de Jusqu'à quand, le livre qui vient de paraître aux éditions Fayard. C'est le livre du Bondi Blog, 15 ans de reportage dans les quartiers, et j'ai le plaisir de recevoir Latifa Oulkouir, qui est la directrice du Bondi Blog.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
15 ans de reportage dans les quartiers, le Bondi Blog, c'est ce que nous restitue Jusqu'à quand, c'est le titre du livre. Ce livre qui vient de paraître aux éditions Fayard, pour nous en parler ce dimanche, le plaisir d'accueillir sa directrice, Latifa Oulkouir. Dans une première partie, nous avons évoqué le contexte un petit peu de cette information, voire non-information, si je puis le dire ainsi. En tout cas, information tronquée, information voire peu précise sur la réalité des quartiers populaires. Vous, au Bondi Blog, qui prend la parole pour écrire sur les quartiers? Quel est le groupe, cette équipe que vous constituez au Bondi Blog, qui quotidiennement, où vous nous rappelez un peu, comment fonctionne le Bondi Blog dans ce petit local, comme vous le décrivez, de Bondy dans votre livre?
Le Bondy Blog est composé d'une équipe de jeunes journalistes ou étudiants en journalisme ou travailleurs ou étudiants
ou non journalistes,
lycéens. Effectivement, nous journalistes, quand je parle de salariés dans notre domaine d'activité qui viennent composer une rédaction donc hétéroclite de ce point de vue-là alimentent et qui viennent de quartiers populaires ou non, mais aussi d'autres régions de France ou d'autres coins d'Île-de-France, et qui viennent en fait écrire sur évidemment l'actualité, sur des choses qui peuvent leur être arrivées et qui ont un intérêt à être publiées, à être racontées. Donc aujourd'hui le fonctionnement du Bondi Blog, c'est celui-là, et sachant qu'on a un fonctionnement complètement ouvert parce qu'on accueille tout le monde à nos conférences de rédaction qui ont lieu chaque mardi à 19h à Bondy, et c'est comme ça en fait qu'on ouvre la porte à plein de jeunes qui rêvent de journalisme, et ça va du collège jusqu'à des journalistes retraités aussi qui viennent nous donner un coup de main parfois.
Vous avez la rigueur de l'information aussi, ou vous laissez à la fois une spontanéité, il y a une vérification des sources, de ce qu'ils vont raconter, quand ils racontent le terrain, par exemple, ce qui se passe dans un quartier, il faut aller vérifier si ce qui est écrit là est vrai.
Ouais, évidemment,
après la déontologie même du oui, voilà, un vrai travail de journaliste.
Oui, le travail, c'est un évidemment, en fait, on est des, pour la plupart aussi des journalistes avec un vrai travail qui est fait de respect du contradictoire, de vérification des sources. Voilà, tout à l'heure quand je parlais de détails intellectuels, ça recouvre ça aussi. Donc c'est ça qui est bien avec le Bondiblog, c'est qu'il y a une accessibilité et en même temps il y a un professionnalisme, une rigueur qui sont réelles et qui sont là et qui en fait font aussi entre guillemets, la gloire du Bondiblog depuis 15 ans, c'est que si le travail n'était pas fait sérieusement depuis tout ce temps, on ne serait plus là aujourd'hui et le bébé n'existerait plus s'il n'avait pas fait ses preuves sur autant le travail journalistique que la formation des jeunes journalistes, etc.
Le bébé, c'est pas de nouveauté, c'est le Bondiblog, on est d'accord. Mais en même temps, c'est intéressant parce que quand on dit bébé, on parle de naissance 2005, le bébé a grandi puisqu'il a aujourd'hui 15 ans. Et depuis ces 15 ans, on verra dans un instant un peu comment vous avez vu grandir justement ce bébé. Dans les thématiques que vous avez recensées ici, à mon avis, ça devait être dur hein, de retrouver 15 ans de reportage dans leur diversité. Il y a quand même ce sentiment dont vous parlez, qui est celui qu'on ne parle pas de ce qui se passe réellement dans d'autres médias, et vous restituez par exemple un fait divers, parce que c'est comme ça qu'on aurait pu l'appeler, je ne sais pas s'il a été nommé comme ça, mais en tout cas, je pense à ce café. Ce café à Sevran, où il était dit dans une certaine période que les femmes ne pouvaient pas entrer dans ce café, elles étaient interdites, sous prétexte que c'était un café d'hommes, etc., réservé aux hommes. Donc il y a eu un sujet très racoleur hein, sur France 2, aux informations, et qui a été ensuite dénoncé par vous, le Bondiblog, pour voilà avoir enquêté, pour savoir si vraiment à Sevran, dans ce café d'Ali, on va l'appeler Ali, les hommes étaient les seuls consommateurs de ce café, sans compter que bon, il y avait le PMU, il y avait tout ça. Donc, on pouvait imaginer que au PMU, c'est sur 10 joueurs, il y a 9 hommes, peut-être une femme. Mais bon, il y a les jeux de grattage, etc. Et il y a des femmes qui y vont. Alors que dans ce reportage, il y avait vraiment la dénonciation que les femmes n'entraient pas. Et vous avez fait un travail remarquable, qui était de retrouver des femmes qui y vont. Racontez-nous.
Bah, j'étais pas au Bondiblog à ce moment-là. C'est effectivement un article de Nassir El-Mouadem.
Nassir El-Mouadem, qui était directrice.
Le Bondiblog était la directrice à l'époque. Mais effectivement, c'est en fait l'idée que de pointer le fait que certains journalistes vont dans les quartiers avec certains préjugés. Et font parfois un travail presque militant, sur des situations. Et où c'est compliqué. C'est-à-dire que, de diffuser ça en tant que journaliste. Donc, finalement, le travail qui a été fait, c'était juste d'aller constater sur le terrain, si c'était vrai ou pas. Et il s'avère que tout n'était pas totalement vrai dans ce qui était raconté dans ce reportage de France 2. Donc voilà, ce travail-là, effectivement, de contre-enquête et de voir si ce qui est raconté dans certains médias mainstream, parfois peut-être vrai ou faux, c'était important et c'est toujours important de le faire, de la même manière que c'est important de parler, de révéler des choses qu'on n'a pas vues ailleurs, que ce soit dans des cas de violences policières ou autres.
Et plus loin que le révéler, vous avez aussi interpellé France 2 pour dire, mais vous savez, là il y a mensonge, là il y a pas de vérité au sens noble de la vérité, et comment ça a été entendu par France 2 ?
Il y a
une enquête qui a été en cours, je crois.
Il n'y a pas eu de, effectivement, enfin le patron du bar à Marsali poursuit effectivement France 2 pour diffamation dans le cadre de cette affaire, parce qu'il n'y a pas vraiment de réaction officielle de la part de France Télévisions.
Et pourtant, cet homme qui est aujourd'hui, il a fermé son café.
Oui, c'est ce qu'on raconte justement dans le livre. On est allé le voir pour savoir où il en était aujourd'hui après toute cette histoire.
Il a été bien, bien amer de cette histoire parce que ça l'a blessé, profondément blessé, je crois.
Oui, évidemment, évidemment.
Il y a d'autres. On parle d'histoire justement parce que c'est aussi ce que raconte un de vos blogueurs. On les appelait journalistes, blogueurs. Justement, l'idée qu'il faille raconter des histoires, des plus banales aux plus fortes dans le sens politique, dénonciatrices, ces histoires. Vous avez au jour d'aujourd'hui, depuis 15 ans, toujours ce conducteur qu'on doit dénoncer. On est dans la dénonciation, le constat, la dénonciation de... je parlais d'égalité, de combat d'égalité, de combat contre les injustices, etc. Tout à l'heure, c'est toujours... Bon, on peut revenir hein, sur le droit à la santé. Voilà, c'est un territoire, la Seine-Saint-Denis, où les problèmes de santé sont flagrants, sont dévastateurs hein, sur des hommes, des femmes qui vont pas se soigner parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il manque des médecins aussi, parce que il y a vraiment une situation dramatique médicale. Tout ça, vous le dites, c'est important de le dire parce que c'est jamais dit là encore avec les autres dans les autres médias.
Non, c'est pas forcément que c'est jamais dit. En tout cas, oui, pour les histoires de, effectivement, on a très peu de documentation. Par exemple sur les inégalités sociales de santé, que ce soit sur le plan scientifique que journalistique, alors que c'est quelque chose qui était sur lequel la crise sanitaire et la crise du Covid-19 a jeté quand même une lumière assez crue, ces inégalités sociales là on se rend compte que c'est les plus pauvres qui en pâtissent ou les plus âgés, etc.
Et on a fait plusieurs papiers là-dessus,
effectivement, et que c'est les précaires qui sont touchés en tout cas par ce virus et donc du coup c'est tout ça en fait. On essaie effectivement de raconter que ce soit les inégalités sur tous les plans, santé, éducation, mais on raconte aussi comment les gens et les habitants des quartiers sont obligés de s'organiser parfois eux-mêmes pour pallier à ça. Quand on parle d'éducation et on fait le focus sur un collectif voilà qui est à Montpellier où les mères de famille et les parents d'élèves s'organisent pour faire en sorte que leurs enfants bénéficient d'un enseignement de qualité qui soit le même que ceux qui est dispensé dans les établissements de centre-ville par exemple, ça c'est important de le mentionner parce que en fait, tout ce qu'on dit, c'est voilà, il y a des inégalités, les gens s'organisent, mais où est l'État là-dedans ? Jusqu'à quand ? Et finalement, sur ça, ce titre, c'est jusqu'à quand dans les quartiers, les gens vont devoir pallier aux incuries de l'État, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement important de signaler encore et encore, parce que il y a l'histoire du Bondi Blog par rapport effectivement au journalisme, au traitement journalistique des quartiers, mais nous, notre boulot aussi en tant que journaliste, c'est de raconter ce qui se passe et encore une fois, comment les politiques publics ont un impact sur la vie des gens, comment ils décident de s'organiser ou non, comment ça peut détruire des vies, etc. Donc c'est vraiment ça qui est primordial.
Alors le jusqu'à quand, c'est l'histoire qui se répète.
Oui.
De 2005 à 2020, le constat est amer et c'est l'histoire qui se répète. Donc quand vous recensez là ces 15 ans de reportage dans les quartiers, elles sont datées, hein, elles sont datées. Je peux les prendre. Ça va de 2005 effectivement à voilà, il y a le traitement médiatique du bar PMU de Sevran, ça se passait en 2017.
Ouais, on a pris des articles effectivement entre 2005 et 2020.
Entre 2005 et 2020, donc depuis 15 ans, ça dure et ce jusqu'à quand continue au jour d'aujourd'hui. Vous êtes dans le sentiment aujourd'hui que c'est cette répétition de malaise dans les quartiers populaires, de pas de prise en compte politique continue.
En fait, c'est ça, c'est que il y a une histoire qui bégaye et se répète. Par exemple, on va prendre l'exemple des violences policières. Quand on révèle l'histoire de ce jeune de 14 ans qui déclare avoir été frappé par des policiers à Bondy.
C'est sa mère qui vous a appelé,
qui nous a contacté pour que l'on en parle et qu'on mette ça sur la place publique. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc du coup, quand on parle de ça et qu'après on a des journalistes qui nous contactent pour parler de violences policières de quartier, etc. pendant le mois de juin, comme ce qui s'est passé en 2005 finalement. Et c'est là où c'est assez troublant de ce point de vue-là. C'est que là, le point positif, c'est que aussi depuis ces dernières semaines, la thématique des violences policières est davantage sur le devant de la scène. Et on en parle davantage dans beaucoup plus de médias, mais il faut se rappeler que c'était pas du tout le cas en 2005 et que c'était une thématique. Enfin, il y a plein de gens qui disaient que ça n'existait pas ou qu'il fallait pas en parler. Et donc là, c'est le point positif. C'est qu'autant sur les aspects de discrimination, de politique publique, de violence policière, etc. On parle davantage de ce qui est fait. Il y a plein de gens qui prennent la parole pour raconter leurs histoires quand il s'agit d'histoires de l'immigration.
Vous parlez des Chibani, hein, très beau. Je sais pas qui, je sais pas de quand date. Alors attendez, je peux reprendre de quelle période date. C'est récent d'ailleurs, c'est du 17 avril 2020.
On a fait un papier pour raconter
la vie des Chibani dans les foyers.
Voilà, et à quel point ils mouraient du Covid-19 sans que personne ne s'en émeuve finalement. Et après, on a eu plusieurs papiers dans des grands médias sur ce thème-là. On était contents parce que c'était aussi on a aussi ce rôle-là un peu de pointer certaines zones qui sont pas traitées par les médias. Et après, on le voit où ils s'emparent du sujet, ils en parlent aussi. Et donc ça, c'était plutôt positif. Mais effectivement, après, j'ai écrit un papier sur les Chibani pour parler un peu de leur place en fait dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'immigration. C'est des voix, s'il y a bien des voix que l'on n'entend pas assez, c'est bien celle-là. Mais après, c'est c'est notre travail à nous, plus jeunes générations, d'aller les voir, de leur tendre le micro, d'écrire et de les faire parler, parce que c'est indispensable pour que la jeune génération sache qu'elle a absolument toute sa place dans la société française actuelle et qu'en fait, la France doit à ces Chibani-là qui sont arrivés pour beaucoup d'entre eux après 1945 pour reconstruire la France.
Les Trente Glorieuses.
Oui, voilà, et qui n'ont pas l'habitude de parler, de prendre la parole. Nous, aujourd'hui, le rôle, c'est de prendre la parole, de prendre la plume, au moins pour eux, et pour que leurs histoires ne tombent pas dans l'oubli, et c'est vraiment quelque chose d'important.
Et le titre est essentiel, ce que nous devons aux Chibani.
Oui.
C'est quand même ça. Parce que la démonstration, le titre est la démonstration même de ce que vous venez de nous dire, c'est qu'effectivement, on leur doit beaucoup, puisqu'ils sont la même de la construction de la France.
Exactement, et puis même, n'en déplaise à certains, lors de sa dernière interview, Emmanuel Macron, effectivement, le président en a parlé, d'honorer les mémoires de personnes, personnages historiques, etc. Mais il y a aussi cette histoire-là qu'il faut raconter de personnes ordinaires, mais qui, en tant que nous, enfants de l'immigration, etc., on doit honorer leur mémoire et leur sacrifice.
Le Bondy Blog, nous en parlons ce dimanche au cours de ce Voix au chapitre.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Jusqu'à quand, c'est le titre du livre du Bondy Blog, un livre préfacé par Edoui Plenel, qui recueille 15 ans de reportages dans les quartiers. Ce livre vient de paraître aux éditions Fayard. Et l'invité ce dimanche est Latifa Oulkouir. Et nous parlons justement de cette manière de travailler concrète, engagée et sur le terrain de toute son équipe au Bondy Blog pour restituer cette histoire des quartiers populaires dans ces reportages du livre. Donc, je le rappelle, qui est publié chez Fayard. Nordine Nabili, on l'a évoqué tout à l'heure, et le plaisir de le saluer. Je ne sais pas s'il nous écoute ce matin, mais en tout cas, Nordine Nabili est une histoire importante aussi, dans l'histoire du Bondy Blog, bien sûr. Il en a été le directeur pendant 10 ans, de 2006 à 2016. Mais se rappeler, nous, à Beurre FM, qu'il a été aussi des journalistes importants de notre rédaction. Je salue Nordine Nabili. Et on va rappeler qu'aujourd'hui, Nordine Nabili, il est... responsable du master presse et information de l'Institut des hautes études des communications sociales à Bruxelles. Donc, il a un rôle important dans l'information, lui aussi, comme vous. Alors, dans un article qui fait le 2 décembre 2013, on va se rappeler qu'il s'appelle La marche arrière, et il est, l'article qui rappelle cette histoire de la marche pour l'égalité et contre le racisme,
1983, oui, après on l'a publié 30 ans après.
30 ans après. Donc, quand il parle de la marche pour l'égalité, il rappelle dans le début de son article, qu'il est très enjoué parce que il pense qu'il y a un espoir là dans cette marche. Il y a les marcheurs ont traversé la France pour l'égalité et contre le racisme. Il y a 100 000 personnes à Paris. Enfin, c'est quelque chose de très très important. Hein. C'était l'une des luttes sociales à l'époque qui va être fondatrice d'un tournant antiraciste, puisque le titre de son article est qui est antiraciste. Et tout au long de ce qu'il va nous écrire, Nordine Nabili, le sous-titre étant La marche arrière, c'est le constat aujourd'hui. Le constat, il est interviewé aussi par un journaliste du Bondy Blog il y a quelques temps après, à qui il va être demandé qu'est-ce qui a changé. Et là, Nordine Nabili est très amer. Hein, il raconte que certes, la société française a changé, mais ça n'a rien changé pour les jeunes dans les quartiers. Vous faites ce constat, vous aussi, Latifa Oulkouir?
C'était important de revenir sur cette marche, parce que voilà, même si avec Nordine on appartient pas vraiment à la même génération, c'est quelque chose qui, en tout cas pour ma génération, enfin j'ai 30 ans, qui a quand même été important, mais qu'on a découvert assez tard. Et qu'on découvre parce qu'on s'intéresse à ces thématiques-là et dont les gens sont pas conscients, mais de l'impact à ce moment-là. Et voilà, Nordine appartient à cette génération-là, etc., qui ont vu un peu ce mouvement de 83, l'espoir qu'il a suscité, etc. Donc c'est important de revenir dessus. Mais quand on voit effectivement le résultat, la récupération politique qui a pu être faite de ce mouvement et de cette marche, enfin voilà, je vous apprends rien. Évidemment que le constat, il peut être qu'amer. Évidemment, quand on voit qu'il a fallu attendre encore longtemps avant d'avoir des personnes issues de l'immigration maghrébine ou africaine accéder à des postes ou à des ministères importants ou à toutes ces choses-là, en fait, sur l'aspect politique, sur l'aspect représentation, et tout le temps qu'il a fallu, encore la situation, et encore aujourd'hui, en fait, la situation est tellement loin... la situation est tellement loin de ce que représente et de ce que a apporté toute cette communauté, tous ces immigrés, quels qu'ils soient, à la France et à l'histoire de France.
Vous n'auriez pas envie, au Bondi Blog, d'interpeller le politique de cette responsabilité de ce qui se vit mal aujourd'hui, de ce malaise social, de ce malaise, de cette crise sanitaire, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers. Depuis plusieurs semaines, à Voix au Chapitre, je reçois des maires de la région parisienne qui ont signé cette lettre, qui ont écrit cette lettre au président de la République, hein, lettre ouverte à Emmanuel Macron pour dénoncer les inégalités, hein, dans les quartiers, ils disent pas populaires, mais les quartiers prioritaires, réclamant ce 1%, simplement 1% d'une somme qui était promise 3 ans plus tôt. Au Bondi Blog, vous avez interpellé les politiques pour des entretiens, pour des... Nantilabili me rappelait qu'il y avait dans ce café où j'étais allée déjà, effectivement des élus qui étaient venus. Encore aujourd'hui, il y a le politique.
C'est vrai que pendant plusieurs années, on a interpellé les hommes et les femmes politiques en les invitant au Bondi Blog Café, qui était une émission télévisée où, pour le coup, c'était assez inédit. On avait... donc c'était présenté
tout
par
Mandine.
Tout le
monde est venu, hein, ouais.
Effectivement, on avait 3 jeunes journalistes ou personnes, enfin, 3 journalistes du Bondi Blog qui interpellaient, posaient les questions de manière complètement... classique,
libre.
Oui, libre en fait, libre à l'homme ou la femme politique. Il y avait une liberté de ton qu'on observera pas ailleurs quand il s'agissait d'interviews de politique, voilà. Et donc ce travail d'interpellation, il peut être toujours fait, mais c'est vrai qu'on préfère maintenant consacrer du temps au reportage, à l'enquête, à ce qui se passe sur le terrain pour faire émerger des thématiques dans l'espace public et faire en sorte que effectivement les politiques puissent s'en emparer et etc. Mais c'est vrai que c'était aussi la communication politique aussi a un peu changé depuis, les rapports sont différents.
Les élus locaux, c'est quand même des gens avec qui vous pouvez parler normalement.
Par contre, oui, les élus locaux sont des gens avec lesquels on parle. On a une émission en partenariat avec Mediapart sur le web où s'appelle Quartier Direct, où on revient sur des thématiques principales de quartier, où souvent on reçoit des élus locaux, des associatifs, etc. Et on échange et on essaie d'aller un peu plus loin et de creuser davantage les thématiques. Mais c'est vrai que l'interpellation du politique par des éditos, par des reportages, des articles, etc., et évidemment par des interviews, a toujours fait partie de notre ADN.
Alors j'ai nommé Nordine Nabili, il y a quand même une autre figure importante là qui appartient à l'historique, c'est le réalisateur
Mohamed
Hamidi, hein, qui a réalisé de nombreux films. D'abord, il est originaire de Bondy, hein, on lui doit Né quelque part. En arrivant dans le studio de Bord FM, vous avez remarqué qu'il y avait son affiche historique aussi. C'est dommage, on n'a pas l'affiche de La Vache, parce que c'est aussi un film important de ce réalisateur. Donc, il a été longtemps lui aussi dans ce début. Hein. Il y a un texte de lui là où il rappelle qu'il est allé, qu'il a accueilli l'équipe suisse tout au début, puisqu'il était l'un des fondateurs, hein, du Bondi Blog. Et que quand il a accueilli les journalistes suisses, après il y a eu ce retour en Suisse, donc il a fallu après aller en Suisse et puis rencontrer l'équipe là-bas pour enfin travailler, voir comment on travaillait l'information. Et il est revenu vraiment boosté par cette dynamique de manière de travailler avec la démarche qu'avaient les Suisses. Et vous continuez de travailler comme ça avec ces histoires dont on a parlé tout le long d'émission, qui sont restituées dans votre livre et qui sont les histoires concrètes, quoi. On n'invente rien, on n'est pas dans du romanesque, on est dans la réalité. C'est toujours ça qui est
la fondation
du Bondi Blog, quoi, réalité.
C'est toujours que les personnes qui sont chez nous se rendent compte que parfois ils vivent certaines choses ou ils constatent, ils sont témoins de certaines situations et ils se disent pas que ça peut faire l'objet d'un article, voilà. Alors que c'est absolument important et à raconter, etc. Parce que voilà, comme parfois c'est des gens issus de quartiers populaires, etc. Leur quotidien est comme tout le monde, en fait, n'importe qui. Notre quotidien nous paraît moins intéressant et pas, en tout cas, digne d'être raconté. Et parfois c'est pas le cas. Et il se passe des choses qui méritent d'être racontées et dont les gens ou les autres personnes qui n'habitent pas dans les quartiers sont, enfin, des réalités dont ils ne sont pas du tout conscients. Et c'est important de les raconter.
Alors vous avez parlé, le chapitre est long, hein, et puis il vient de sortir. Hein, c'est vous qui faites cet article, ce qui se passe en Seine-Saint-Denis en matière de médecine de ville et en matière d'hôpital aussi ou d'urgence. Enfin, toute cette catastrophe sanitaire, hein, c'est une véritable catastrophe sanitaire. On va des urgences et on nous ballonne comme ça d'urgence en SAMU, en passant par aller voir tel docteur, etc. Et puis ça répond pas, et les médecins veulent pas aller dans les quartiers. Tout ça est éprouvant quand même,
oui,
pour
oui,
les habitants de ce territoire.
On le sait peu,
même
mais
si on sait que ça existe ailleurs.
Oui,
ailleurs.
On le sait peu, mais par exemple, la Seine-Saint-Denis est un désert médical. En ouais. termes de voilà
maillage de médecins,
ouais, de maillage et de population, c'est une réalité. Et en fait, c'est vrai que on parle beaucoup et à raison des inégalités devant l'emploi, devant le logement, etc. Mais l'inégalité que les gens, enfin l'inégalité devant la vie et la mort finalement, parce que c'est ça, et la dégradation et le physique, la santé des gens, c'est quand même extrêmement révoltant de constater ça en fait, de voir qu'il y a des taux plus élevés par exemple de diabète ou d'hypertension, que c'est que dans d'autres départements, et que les gens souffrent davantage de certains maux. Et donc, en plus, on dit ça, par exemple, sur le fait qu'il y a un désert médical, mais la Seine-Saint-Denis, c'est aussi un département, le département où il y a le plus d'étrangers aussi, et où donc la mesure de la population est, on dit, toujours sous-estimée. Il y a toujours plus de gens que l'on croit en Seine-Saint-Denis. Alors déjà, avec les chiffres officiels, on se rend compte qu'il y a très peu de médecins, mais quand on rend compte de la population réelle, c'est aussi une problématique. Donc voilà, c'est extrêmement grave d'avoir ça, et c'est ce qui est raconté dans cet article, et sur lequel on revient aussi, c'est que finalement, qu'est-ce qui a changé, surtout avec la crise sanitaire par rapport à ça? Bah, pas grand chose en fait. Il y a des acteurs de terrain associatifs, comme par exemple Banlieue Santé, qui font un travail remarquable sur les quartiers et qui se sont beaucoup mobilisés. Mais encore une fois, où est l'État dans tout ce marasme en fait, et dans toutes ces vies qui sont brisées ou que l'on perd parce que bah, en Seine-Saint-Denis, dans les quartiers, on n'a pas les mêmes droits que chacun, que n'importe quel citoyen. Enfin, c'est la promesse originelle de la République française qui est brisée tous les jours, en fait.
Vous donnez juste un chiffre, hein, qui est important. Sur 37 communes du département, sur 40 communes du département, 37 manquent de médecins, quand même. C'est un chiffre énorme.
Ah oui, oui, quand on se rend compte de ça, effectivement, quand on se penche un peu sur les chiffres, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de pauvreté, qu'il y a des situations, voilà, d'inégalités criantes qui sont, par exemple, quand on prend la Seine-Saint-Denis, on a fait pour l'emploi, on a implanté tout un tas d'entreprises, etc. On se rend compte que, bah, finalement, les postes de cadres qui sont occupés à 70% dans ces entreprises-là, c'est pas des gens du territoire qui les occupent.
Ouais.
Et donc, en fait, quel est le sens de ces politiques-là, finalement, quand c'est seulement pour l'affichage et pour l'image, et quand elles sont complètement déconnectées des habitants du département, de leurs préoccupations, de leur réalité. En fait, c'est vraiment, ouais, quand on se penche sur ce chiffre-là, le constat, il est effectivement amer, mais il y a plein de gens qui continuent à se battre, et il faut qu'ils continuent encore à le faire.
Et vous aussi, au Bondi Blog. Avant de se quitter, on va dire un mot quand même sur une figure importante de Bondi, puisque c'est Kylian Mbappé.
Oui.
Ça a été la fierté de Bondi, c'est une figure incontournable maintenant. Il revient à Bondi quelquefois?
Évidemment,
il y a sa famille.
Quand il revient, je suppose qu'il revient, mais on le voit pas. Mais effectivement, il a fait connaître Bondi de manière internationale, et c'est une fierté pour tous les habitants de la ville et pour tous les jeunes, etc. Donc il y a une interview effectivement de lui qu'on avait pu faire, et on raconte un peu les coulisses de cette interview-là qui était importante. Donc voilà, c'est effectivement quelqu'un d'important. Et je clôture juste en parlant d'une campagne de membership qu'on a lancée. Donc les gens peuvent s'abonner au Bondi Blog et donner un peu d'argent chaque mois pour nous permettre de continuer le travail, sachant qu'on a un tout petit budget qui est de 100 000 euros.
Alors, on va donner le site hein, du Bondi Blog, c'est
bondiblog.fr.
Blog, voilà, www.bondiblog.fr. Donc, allez sur le site, vous aurez des informations et soutenez le Bondi Blog. Et lisez surtout, jusqu'à quand cette interrogation? 15 ans de reportage dans les quartiers, c'est le livre du Bondi Blog, un livre préfacé par Edoui Plenel. Il vient de paraître aux éditions Fayard. Merci, Latifa, d'être venue ce dimanche matin à Beurre FM. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt et bonne semaine.
Retrouvez Voix au Chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.